Chers amis, parce que je crois que je peux dire ce mot d'amitié, puisqu'en fait ce qui nous réunit, c'est finalement un grand frère, Maurice Zindel, à la fois un poète, un prophète, et je crois aussi un théologien. Alors, Père Benoît, vous avez présenté les choses tout à fait justement. Quelqu'un d'entre nous disait ce soir, moi j'ai mis un peu du temps, moi j'ai mis aussi beaucoup de temps, je ne suis pas une vocation tardive, mais en fait, j'ai répondu très tardivement, puisque j'avais 40 ans. Donc vous voyez mon âge. Cette association Habitat Humanisme, elle n'est pas simplement l'expression de ma propre démarche, elle est aussi très très liée à une réflexion en Église, notamment le cardinal Albert de Courtrai, qui m'a invité, à partir de mon engagement économique, de voir comment il y avait une possibilité, finalement, de l'inscrire dans une approche de solidarité. Et les deux intuitions du mouvement Habitat Humanisme, c'est d'abord une intuition à partir de laquelle comment on peut réconcilier l'économique et le social. Aujourd'hui, cette réconciliation, je ne dis pas qu'elle est faite, naturellement, mais en tout cas, notre société s'interroge en fait sur la question du sens. Et au fond, cette société, qui est parfois accablée d'ailleurs par cette financiarisation de l'économie, se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'un autrement ? Et je trouve que dans cette approche de l'autrement, nous sommes aussi au cœur d'une dimension spirituelle. Le tout autre ne nous invite-t-il pas précisément à poser des actes un peu autres? La deuxième intuition de l'habitat humaniste, c'est cette réconciliation entre l'humain et l'urbain. On voit comment les villes se construisent, finalement à partir d'une approche qui est seulement, même pas économique, mais une approche financière. Et ça donne en fait des situations qui sont des situations de grandes fractures sociales. Si Habitat Humaniste a pu esquisser une certaine ouverture sur la question précisément d'une nouvelle économie, puisqu'on en est un peu les pionniers, en revanche, l'honnêteté intellectuelle m'invite à reconnaître que sur la question de la réconciliation de l'humain et de l'urbain, il y a beaucoup, beaucoup à faire et nous n'avons fait que balbutier un certain nombre de propositions. Alors, j'en dirai pas plus sur Habitat Humaniste. Je proposerai que Claude, ce soir, Solignac, nous dise un peu comment, en fait, cette association, aujourd'hui, elle s'inscrit, elle s'éveille sur ce territoire. Simplement pour que les choses soient un peu d'où je parle, comment je parle. Évidemment, cette association, aujourd'hui, elle a pu loger presque 30 000 familles, qui étaient dans des situations tout à fait difficiles, parfois dans la rue, et jamais dans des quartiers pauvres, jamais, pour ne pas ajouter de la fragilité à la fragilité. De permettre à des hommes et des femmes d'avoir un autre environnement, et notamment on sait bien qu'il y a une grande injustice, et quand on aborde la question de la solidarité, naturellement, il faut se laisser interroger en disant, mais pourquoi ? Pourquoi finalement il y a toujours cette pauvreté qui augmente, en tout cas cette précarité qui est extrêmement prégnante. Bien, le logement est à la fois la cause de bien des situations de pauvreté et le syndrome aussi de la précarité. Là, on n'est pas là pour parler sur des questions politiques, mais naturellement, la question de la solidarité qui se laisse interroger par la spiritualité ne nous permet pas d'évasion. Et je crois que ce qui nous rassemble ce soir, c'est précisément le Christ, son incarnation, et l'incarnation nous met au cœur du réel, nous met au cœur des situations difficiles que connaissent trop d'hommes et de femmes, d'enfants. C'était au mois de septembre dernier. Le président de la République, dans son plan pour lutter contre la misère, disait en fait, c'est quand même tout à fait inacceptable qu'on considère que finalement, parce qu'on est un enfant pauvre, on ne pourra jamais être un Mozart. Et disait-il, la pauvreté assassine des Mozarts. Eh bien, je crois qu'il y a cette invitation à un certain regard, et j'évoquerai ce soir cette approche du regard pour voir comment, aussi à travers une spiritualité, en se laissant interroger par une attention à la solidarité, comment nos regards changent. Et je crois que la dimension spirituelle, c'est une invitation à changer, mais aussi à faire changer. Comment j'ai connu Maurice Zindel ? Enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, mais dans mon ministère de prêtre, je suis resté longtemps, presque 15 ans, comme aumônier d'un centre anticancéreux, le centre Léon Bérard à Lyon. Et j'étais naturellement, enfin, je n'étais pas préparé à ce ministère, et je dois vous avouer que j'ai été désarçonné, désarmé, devant la souffrance d'hommes et de femmes et d'enfants touchés par la question du cancer. Et j'ai bien cru que je perdais un peu pied. Alors j'ai été voir des professeurs de théologie. Finalement, ils ont essayé de m'aider sur la question du mal. Je dois avouer que ça ne m'a pas convaincu. Je suis rentré dans une chambre, peut-être avec une prétention, c'était celle de pouvoir accompagner, et finalement je suis sorti de cette chambre, en fait, non plus comme étant celui qui accompagnait, mais comme celui qui était accompagné. Et par une femme qui avait alors beaucoup connu, en fait, personnellement, en fait, Zindel. Et finalement, au seuil de ce ministère, c'est elle qui m'a aidé. Et donc ce soir, j'ai une pensée tout à fait particulière pour elle. Il y a longtemps qu'elle a rejoint, en fait, le ciel. Vous savez, comme on dit Zindel, il dit, en fait, il ne s'agit pas, en fait, de considérer qu'on va aller au ciel. Il s'agit de devenir le ciel. Et pour Zindel, vous rappelez aussi cette belle expression, le ciel, c'est le cœur. Et bien, dans cette perspective du cœur, nous sommes donc appelés un peu à nous laisser interroger par cette situation qui conduit des hommes et des femmes à des situations de déshumanisation. L'homme, c'est banal de dire cela, c'est toujours une relation. On ne vient en accès à notre humanité qu'au cœur d'une relation. Et Habitat-Humanisme est précisément né à partir de rencontres, et que de rencontres. Et la première rencontre, ça a été celle d'une femme qui était du quart-monde, âgée, et qui n'avait pas de relation, ou très peu de relation, ce n'est quelques amis dans un quartier qui était en pleine transformation sociale. Et l'immeuble qu'elle habitait, c'était justement un immeuble qui était sous le coup d'un arrêté de péril. C'est dire, en fait, ce caractère indigne de ce logement dans lequel elle était. Je m'étais porté acquéreur, quand je dis moi, c'est pas je, enfin c'est la société qui s'était portée acquéreur de cet immeuble, mais je n'ai pas à me défaire, à me défausser aussi de mes responsabilités, peut-être de mes erreurs. Et donc, on achète cet immeuble pour pouvoir, en fait, le démolir et construire, en fait, un immeuble de qualité. Mais qu'est-ce que cela veut dire, en fait, la grande question qui me hante, et qui ne cesse de me hanter, c'est construire pour qui ? Construire pour qui ? Et donc, cette personne, elle fait une tentative de suicide. Je vais à l'hôpital. Et les médecins me disent, un certain temps, vous pouvez la rencontrer. Et je lui dis, mais madame, vous savez bien. Et alors, elle de me dire, ah oui, je savais bien, mais vous, vous ne saviez pas, ou vous ne vouliez pas savoir, c'est que ce logement, certes, il est inacceptable, seulement ce logement me permettait d'être au cœur de relations, d'avoir des relations avec des gens que je connais depuis très 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 longtemps, alors que j'ai perdu mon mari, que je n'ai pas d'enfant et que je suis quand même confronté à une grande solitude. Et en fait, vous savez, souvent les pauvres, en fait, ils ont en fait cette énergie et à la fois aussi ce goût de la formule, cette sens de la formule, et elle me dit, ah oui, mais vous, avec votre fric, vous pouvez déplacer les gens. De fric, bien sûr que par rapport à elle, j'en avais beaucoup, mais moi je ne suis pas issu d'un milieu privilégié, donc en fait, je n'avais pas tant d'argent, qu'importe. C'est, finalement, son observation, elle était tout à fait juste. Je suis rentré à l'hôpital, donc, pour voir cette femme. Je suis sorti de l'hôpital, un peu guéri de mes approches, en fait, d'idées de puissance, et de me dire, il faut changer. Il me faut d'abord changer. Et il faut rechercher, en fait, une autre alternative à la question d'une économie, pour que cette économie, on ne se paye pas de mots, mais permette précisément à des hommes et des femmes, des gosses, de pouvoir avoir des conditions de vie qui sont respectueuses. Alors à partir de là, vous sentez bien que la question solidarité et spiritualité est extrêmement liée. J'aurais d'ailleurs dit, mon père Bruno, merci, parce qu'en fait, j'avais proposé comme, ce n'est pas une conférence, hein, ce soir, on est là pour en fait un temps de partage. J'ai proposé comme titre, en fait, la solidarité dans l'approche de la spiritualité zendélienne. Le père Bruno a dit, oh là là, mais que c'est compliqué tout ça, donc soyez plus simple. Vous avez eu raison, comment la solidarité se laisse interroger par la spiritualité, mais aussi comment la spiritualité se laisse interroger par la solidarité. La solidarité, c'est donc l'expression d'une ouverture. C'est en fait quand on rencontre des situations tout à fait difficiles, on peut passer de l'autre côté. On voit dans l'Évangile le Lévite, le prêtre, il passe de l'autre côté. Mais on peut aussi s'arrêter. Et c'est important de s'arrêter, vous savez, Zindel, il dit en fait, il fait dire à un pauvre, chez nous, on passe, mais on ne s'arrête pas. Et il s'agit de s'arrêter. De prendre le temps de s'arrêter pour entendre, pour écouter et par là même pour comprendre. Et lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on se met à écouter, il y a donc une invitation à une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur et une ouverture de l'esprit. Ne sommes-nous là précisément pas au cœur de la spiritualité, l'esprit. Cette définition, c'est aussi du latin, mais qu'importe les mots ici, en fait, c'est un soupir. Il y a un soupir. Vous vous rappelez dans l'Évangile aussi Jésus qui a un grand soupir. Ce soupir ne marque pas, en fait, une sorte de distance, mais c'est en fait ce souffle intérieur, de voir comment ce souffle va nous animer différemment. Là, nous découvrons aussi, sur le chemin de Zindel, en fait aussi son approche, où l'esprit pour Zindel fait découvrir que Dieu n'est jamais celui qui contraint. Dieu ne contraint pas, Dieu attend, il nous attend. Il est ce pauvre aussi qui s'interroge et qui peut sans doute nous dit, et toi, est-ce que tu accepterais? Est-ce que tu accepterais, en fait, de t'arrêter? Et à partir, en fait, de ce moment-là, Alors Zindel va nous faire un peu saisir que Dieu n'est pas une invention, mais que Dieu est une découverte. Eh bien, je crois que si nous voulons véritablement entrer dans une relation de solidarité, il faut précisément se laisser habiter par cette découverte de l'autre, du tout autre. Je crois que c'est Joseph Brzezinski, le fondateur d'Athénée Carmonde, qui était issu du monde des pauvres et qui avait bien compris précisément ce lien aussi entre solidarité et spiritualité. Et l'incarnation du Seigneur, c'est bien sûr Dieu qui entre en relation avec nous. Il est l'Emmanuel, il est le Dieu avec nous, il est ce Dieu parmi nous. On pourrait dire que la spiritualité est à la fois un réveil de ce que nous sommes, et lorsqu'on se laisse aussi toucher par des situations d'iniquité, de déshumanisation, eh bien, il y a aussi une invitation à un réveil, de se dire, mais à partir de ces situations-là, qu'est-ce que je vais tenter de faire pour que ces hommes et ces femmes ne vivent pas un enfer. Jean-Paul Sartre, dans sa pièce de théâtre, Le Huis Clos, dit qu'en fait, vous savez, l'enfer, c'est les autres. Et non. L'enfer, c'est aussi l'absence de l'autre. L'enfer, c'est aussi le fait, pour reprendre le titre de cet ouvrage, l'intranquillité, ce que finalement, on ne veut pas bouger. Et l'enfer, devant des situations d'enfer, il nous faut apprendre à nous défaire, à les défaire. Et je ne joue pas ici sur des mots. Entrer dans cette relation, c'est d'abord une approche aussi de grande d'humanité. Et vous vous rappelez, parce que nous sommes tous ici de cette famille zindélienne, c'est Zindel évoque ce moment difficile pour Oscar Wilde, qui, vous savez que pour des raisons de mœurs, a connu les travaux forcés, est allé en prison, et cet homme qui avait une grande réputation, etc., et voici que tout le monde, absolument tout le monde, l'a abandonné. Sa femme l'a abandonné, ses enfants l'ont abandonné. Et Oscar Wilde, en fait, vit alors un moment de très grande détresse. Et pourtant, dans ce moment-là, il va se rappeler. Il va se rappeler qu'il avait un ami, un seul ami qui restait fidèle. Et cet ami qui restait fidèle, lorsqu'il a été condamné, cet ami était présent. Et lorsque Oscar Wilde est sorti en fait plutôt du tribunal, eh bien cet ami s'est mis devant lui, l'a salué et lui a exprimé un hommage. Et finalement alors, dans ces moments de très grande détresse, voici que ce grand auteur se rappelle de ce moment. Mais ce n'est pas simplement un souvenir, c'est le temps d'une mémoire au sens où c'est une mémoire d'avenir. C'est-à-dire que c'est une présence. Vous savez aussi bien que moi, mieux que moi, vous les Indéliens, combien aussi l'approche de la présence est quelque chose d'essentiel. Tout d'un coup, il y a une ouverture, tout d'un coup, il y a une lumière, tout d'un coup, en fait, cet homme ne reste pas, en fait, dans cette difficulté, ce tragique qu'il vient de connaître. Tout d'un coup, il y a un visage. Et c'est important, finalement, cette question du visage, parce que ce n'est pas simplement une image. Et dans le dernier livre de Christian Bobin, précisément, Nuit d'amour, il dit faisons attention, parce que vivre en ressuscité, c'est pas vivre avec des images. Vivre en ressuscité, c'est s'éveiller aussi à un visage. Et il dit lorsque nous serons pleinement ressuscités, alors il n'y aura plus ces images, mais il n'y aura plus au fond que des présences. De ces visages qui sont des visages animés, de ces visages à partir desquels il y a l'expression d'un regard. Et ce regard, Zindel aussi le rappelle, citant Claudel, qui fait dire au bon larron, sur un regard, j'ai tout compris. Non pas à partir d'une philosophie, non, à partir d'un regard, j'ai tout compris. Et comprenant alors, il y a une espérance. Comprenant alors, finalement, on ne se laisse pas enfermer, puisque cette présence est une présence vivante. Elle est celle qui nous invite à nous mettre debout. Et cette rencontre ce soir s'inscrit bien dans cette préparation de la Pâque du Christ, vivre en ressuscité. Et peut-être que nous avons à nous demander, mais c'est aussi la question que pose Zindel. Est-ce que nous avons des visages de ressuscité? Si nous avons ces visages de ressuscité, alors il y a cette solidarité qui s'éveille. Je pense en disant cela ce soir, je ne citerai pas le nom, cet homme pour qui j'ai un très très grand respect, qui a été ministre du logement il y a 20 ans, cet homme qui est d'une humilité absolument incroyable. Cet homme a perdu, je ne peux pas dire qu'il a perdu la foi, il l'exprime comme ça, mais en fait, cet homme a une telle présence, à un tel amour de l'autre. Simplement, il est heurté parce qu'il a perdu sa petite fille d'un cancer après 6 années de souffrance. Et naturellement, je dis naturellement en pensant aussi à Camus, je pense à tous ceux qui finalement, comme rencontré aussi à l'hôpital, et qui finalement me disent, mais s'il y avait Dieu, alors est-ce que je vivrais ce drame? Pourtant, me disait-il dernièrement, cet homme avec qui je suis resté en relation, ce ministre, et qui m'a dit, voyez-vous, il y a quand même une chose aujourd'hui qui m'interroge. Une sorte un peu de fil d'espérance, c'est qu'il m'a été donné de rencontrer des chrétiens. Et de ces chrétiens qui finalement font bouger, de ces chrétiens qui n'acceptent pas ces situations déplorables dans lesquelles vivent trop d'hommes et de femmes. Oui, dans cette nuit du cœur de Bobin, il y a cette invitation, et c'est si bien exprimé aussi par Zindel, cette question d'apprendre à regarder, de ces regards qui vous changent, de ces regards qui vous conduisent alors à vous laisser habité par une espérance, et là, la solidarité s'éveille. La solidarité, c'est une libération. Et naturellement, la foi, c'est d'abord cela. Nous sommes des femmes et des hommes appelés à être debout, appelés à être libérants parce que nous sommes libérés. Et donc, la foi, c'est d'abord une très grande joie de cette libération. Vous savez, dans la Bible, il y a ce très beau passage du mythe de Babel. De ces hommes qui sont en fait entre eux, qui ont la même culture, qui ont la même formation. Ah tiens, ça nous dit quelque chose aussi cela. Ils construisent pour eux. Et voici que c'est Dostoïevski d'ailleurs qui dit en fait ils construisent pour eux parce que le texte monter une tour jusqu'au ciel. Mais c'est cette grande prétention, finalement, d'abaisser le ciel là où ils sont et là où ils en sont. Alors, dans ce mythe de Babel, dans la Bible, voici que Yahvé est là. Et Yahvé va leur dire, « Et les autres, et les autres, ceux qui n'ont pas votre formation, ceux qui n'ont pas votre culture, et les autres. » Et Dieu est de quel côté? Bien sûr, il est aussi du côté de ces hommes, mais il est aussi du côté de ceux qui sont les oubliés, comme Dieu lui-même, c'est tellement souligné fortement par Zindel, qui dira que Dieu c'est la première victime du mal. Oui, Dieu a une inquiétude. Cette inquiétude, il nous la partage, et il vient d'ailleurs nous dire aussi dans la Genèse, c'est le cri de Dieu. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de tes frères? Voyez, d'emblée, il y a ce lien, cette communion entre solidarité et spiritualité. Ce sera repris aussi d'une manière magnifique par Jacques, l'apôtre Jacques, qui dira dans sa deuxième épître, « Mais la foi sans les œuvres, mais la foi, elle est tout à fait morte !» Oui, pour être des vivants, il nous faut être solidaires, comme Dieu est solidaire. Et trop souvent, finalement, on s'est arrangé pour faire de Dieu un Dieu qui était solitaire. Quelle aberration! Alors que ce Dieu vit au cœur de la Trinité, de cette relation trine, et au sein de laquelle nous avons tout absolument, toutes et tous, notre place. Peut-être alors, cette invitation au cœur, qu'as-tu fait de ton frère, c'est bien sûr alors nous inviter à voir ce qui manque. Et accepter de voir ce qui manque, c'est aussi, c'est possible que si nous-mêmes, nous parvenons aussi à mieux saisir ce qui nous manque. Et là, nous touchons quelque chose qui me semble très très important sur le plan de l'anthropologie. C'est lorsqu'on s'ouvre à la question du manque, alors on va passer de cette relation de l'individu, ce moi chose, ce moi préfabriqué, en fait, à la relation de personne. Et la personne, c'est celle qui à la fois qui saisit toutes ses capacités, mais qui comprend aussi ce qui lui manque. Et lorsqu'alors on se laisse habiter par le manque, alors l'autre prend toute sa place. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre pour exister et faire exister. Voyez combien aussi la relation, elle est alors l'expression d'une grande richesse et cette solidarité qui va naître va nous faire passer aussi de cette situation de l'entre-soi à finalement l'autre soi. Oui, il s'agit bien de cette prise en compte du fragile. Et ce mot fragile, on n'aime pas beaucoup. Il flirte un peu ce mot, justement, avec la question du manque, et souvent on n'aime pas bien comme. J'aime pas bien qu'on me dise aussi ce qui me manque, et pourtant, le manque, c'est aussi, dans cet éveil à la fragilité, à la vulnérabilité, c'est un peu saisir que cette fragilité, elle est une force, elle est un formidable levier, précisément pour le changement. Quel dommage lorsque finalement on se met à distance et de soi et par là même en distance de l'autre. Mais Dieu, et Zindel le souligne si fortement, j'espère ne pas ici choquer, mais Zindel dit que Dieu est aussi et fragile. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque Dieu est tout amour, puisque Dieu n'est qu'amour. Et vous vous rappelez aussi les mots de Zindel, il dit « Dieu est Dieu parce que Dieu est tout donné ». C'est cela, dit Zindel, c'est le don, c'est ce don de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et Maurice François Varion le reprendra aussi dans son livre « L'humilité de Dieu ». Il n'y a aucune trace, absolument aucune trace de puissance dans le cœur de Dieu. Et Simone Veil, la philosophe, cette femme merveilleuse juive, celle qui dans son livre « La pesanteur et la grâce » dira « Mais Dieu ne peut aimer en moi que ma capacité à m'effacer, comme lui le Tout-Puissant » s'efface pour me permettre, entendez, pour me permettre d'être. Oui, ici, quelle communion possible. Et finalement, je crois qu'il y a véritablement de rencontre avec l'autre, que lorsqu'on parvient à partager un peu nos fragilités. Dans la préparation, comme chacun d'entre nous, prêtres ou des laïcs aussi, qui accompagnent des fiancés au mariage, souvent je leur dis, mais est-ce que vous arrivez à partager un peu vos fragilités? Bien sûr que la tentation, c'est de dire, tu es la plus belle, t'es ceci, t'es cela, etc. Mais finalement, est-ce que vous arrivez à vous dire ce qui vous manque? Et je crois que on accède à une vérité de l'autre et à une vérité de soi-même que lorsqu'on parvient à dire « Mais je suis pauvre finalement de ton amour, je suis pauvre de l'espérance, je suis pauvre de joie. » Et c'est cela que tu peux me permettre de m'éveiller, de m'offrir, de me donner comme moi je peux rentrer aussi. Tu peux m'aider à que je rentre dans ce don. Et là, nous sommes au cœur, finalement, alors, d'une magnifique spiritualité. Et tant que l'autre ne vous manque pas, alors cet amour demeure, mais le jour où, en fait, on n'a plus aucune idée du manque de l'autre, tout est mort. Oui, quel est aussi notre manque par rapport à la question de Dieu. Je voudrais évoquer cette rencontre un jour à l'hôpital, précisément, avec un médecin, un oncologue. On me fait venir dans la chambre d'une malade. Elle va mourir et elle le sait. Et on me demande de venir pour donner le sacrement des malades. Et là, le médecin sort de la chambre et il me dit « Eh bien, faites donc le miracle !» Et je lui réponds à ce moment-là « Docteur, ce miracle, il y a bien longtemps que vous l'avez fait. » Alors il s'arrête et il me dit « Et pourquoi vous me dites cela ?» Il me regarde un moment et je vois que ses yeux sont embués. Je dis, voilà, pourquoi vous avez fait le miracle? Eh bien, parce que vous auriez pu vous contenter simplement de votre savoir. Mais il me dit, mais j'ai échoué. Non, vous n'avez pas échoué. Vous avez fait quelque chose de bien plus grand encore. Vous êtes arrêté tous les soirs auprès de cette malade tous les soirs. Et ça, j'avais en fait, c'était cette malade qui me l'avait partagé. Elle me dit, moi j'étais seul. Finalement, tout m'abandonnait. Il y avait ce manque en moi. Comment pourrais-je m'en sortir? Elle me disait, c'était pas m'en sortir pour retrouver la santé, je savais que j'allais mourir. Mais comment quelqu'un allait pouvoir me partager profondément une relation humaine, une relation? Et c'est ce médecin qui lui l'a offert. Alors, finalement, ainsi que ce médecin, il me dira plus tard, il m'a dit, mais de ce moment de rencontre, j'ai mieux saisi aussi le sens de ma mission. Vous voyez, chaque fois que finalement on s'éveille à une vraie solidarité, c'est-à-dire à une vraie rencontre à l'égard de l'autre, alors soudain, oui, s'éveille une présence, se crée des espaces, pour reprendre aussi le mot de Zindel, des espaces de générosité. Et ce monde a besoin de ces espaces. Ce monde qui est matraqué, finalement, toujours par ses idées de puissance. Ce monde a besoin qu'il y ait de ces êtres solidaires et de ces êtres qui, dans cette solidarité, ne font pas les malins en disant « je crois ceci, je crois cela ». Vont pour parler aussi comme Zindel. Et notre pape François le souligne aussi si fortement, il ne s'agit pas tant de parler de Dieu que de vivre Dieu. C'est cela, le don qui nous est fait. Oui, comprendre que la grandeur de Dieu n'est pas une grandeur de domination, ce sont les mots mêmes de Zindel, mais une grandeur de générosité, d'effacement. Nous l'avons déjà évoqué. Ce regard du Seigneur. Comment aussi l'aborder? Parce que la solidarité, on est solidaire que si on fait attention dans l'accompagnement. Même le mot accompagnement aujourd'hui, j'y fais un peu attention parce que qui m'accompagne, alors, c'est que tu crois que tu es plus que moi. Dans le mot, bien sûr, accompagnement, il y a le mot compagnon. Comment on peut faire route ensemble? C'est la parole de Jésus. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et ce chemin, le Seigneur ne le fait pas précisément devant nous, simplement devant nous, en nous laissant là où nous sommes. Il nous rejoint. Et lorsque nous sommes au bord du chemin, où est Dieu? Eh bien, précisément, il est à genoux. Ça, c'est un moment extrêmement fort, et vous le connaissez bien, vous les amis de Zindel, de ce Dieu qui se met à genoux, il se met à genoux devant ses disciples. Et les disciples disent, mais il n'y en est pas question, c'est pas la posture d'un maître, ça, c'est la posture d'un serviteur. Et Jésus va être clair. Il va leur dire et nous dire, me dire, mais si tu ne veux pas être serviteur, te croirais-tu donc plus grand que le maître? Le maître est un serviteur. Oui, Dieu est à genoux devant l'homme. Parce que l'homme, c'est l'espérance de Dieu. Et lorsque nous brisons cette espérance, Dieu est en souffrance. Dans la relation avec le Seigneur, dans cette relation de l'Esprit, voici que c'est le plus petit qui est le plus grand. Et donc c'est entrer dans un monde radicalement nouveau. C'est pour cela qu'en fait, dans cette solidarité, permettre aussi à ceux qui pensent qu'ils seront jamais dans cette société, qui n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place parce que nous ne vivons pas ces déplacements intérieurs à partir desquels nous pourrions leur offrir cette place. Et la place, elle ne se trouve et elle ne s'éveille que si nous nous mettons un peu à genoux. Oui, Jean Del a dit, Dieu ne sera jamais celui qui nous tient à sa merci, jamais. Dieu est celui qui se communique, et qui se communique d'autant plus que finalement nous entrons avec lui dans cette relation de l'accueil de l'autre, parce que dans cet autre il y a cette présence et que Dieu demeure en lui. Que là où nous décidons, et naturellement c'est une invitation à un discernement, celui de quitter ses idées de possession. Et une fois encore, Dieu, absolument Dieu ne veut rien posséder. C'est éternellement, absolument éternellement, que Dieu est tout donné. Que Dieu est dépouillé. Ce que nous pourrions prendre en compte, en fait, ce que moi je peux arriver à prendre en compte, ce ne sont pas des mots. Dieu est totalement dépouillé. Parce qu'il est amour. Et saint François nous dit que il faut l'aimer. Et le faire aimer en aimant. Et comment mieux aimer que finalement entrer dans une vraie solidarité. C'est là que le Seigneur, en fait, nous attend. C'est la question qui est posée sur la question de la spiritualité. C'est Michel Foucault qui demande à un de ses amis, pour toi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une spiritualité dans la politique ? Oui. Et là, nous touchons précisément alors une question essentielle, absolument essentielle, c'est la question du service. L'attention à l'autre est toujours un appel à défendre les droits de l'homme. Défendre les droits de l'homme et les droits de l'âme. Tenir cela ensemble. Parce que sinon, il n'y a pas de communion entre spiritualité et solidarité. Et que la solidarité, ce qu'on appelle parfois la solidarité, ça peut être que l'expression d'un pouvoir sur les autres, une forme de reconnaissance de soi. Terrible cela, terrible. Il ne s'agit pas d'entrer dans une reconnaissance de soi, il s'agit que cette reconnaissance soit le temps d'une naissance. Naître à ce que nous sommes, comme le frère aussi, en difficulté, en souffrance, est en attente de naître à ce qu'il est, pour nous faire naître aussi à notre tour. La foi ne s'affiche jamais comme une évidence. Est-ce que je peux dire cela aussi sans choquer ? Je crois que Dieu ne se trouve pas, mais que Dieu s'éprouve. Il s'éprouve dans un silence. Il s'éprouve dans la rencontre de l'autre. Il s'éprouve dans ces moments qui feront dire à Zindel, Dieu, c'est quand on s'émerveille. Alors, là où nous en sommes, de cette solidarité et de cette spiritualité, on sait que notre société aujourd'hui a la tentation, mais est-ce que c'est aujourd'hui ? La tentation finalement de dire ce qui est de l'ordre du spirituel, ce qui est de l'ordre du religieux, c'est de l'ordre de la sphère privée. Et je crois que la question, c'est pas tant sphère privée, sphère publique. C'est peut-être de voir comment, devant l'immensité de la tâche, devant tant d'hommes et de femmes qui sont des oubliés, combien nous allons parvenir. C'est pas simplement un chantier quantitatif, bien sûr, parce que ça pourrait devenir le chantier de la puissance. Mais ouvrir des chantiers, qui sont de ces chantiers à partir desquels nous susciterions un autre monde. De ces chantiers qui interrogent, qui parfois d'ailleurs créent des difficultés, des oppositions, des crispations. Mais si nous sommes appelés à faire de notre vie un don, alors, comme Dieu se donne absolument, parce que nous ne sommes pas plus grands que le Maître, ne pourrions-nous pas accepter aussi que nous ne soyons pas toujours encensés, mais de vivre les béatitudes heureux. Heureux si l'on dit contre toi toutes sortes de mal à cause de l'Évangile, à cause de la bonne nouvelle. Réjouis-toi, grande sera ton allégresse. Mais cette allégresse, elle est déjà commencée. Il y a quelques jours, c'était l'inauguration d'un immeuble, un peu loin d'ici, mais qu'importe, à Nice. Et cet immeuble, c'est un immeuble intergénérationnel qui accueille des étudiants, des jeunes actifs, et puis des personnes âgées. Et tous de conditions, en fait, sur le plan social, qui sont en difficulté. Et il y a cette femme absolument incroyable, 92 ans, elle dit, lors de l'inauguration, en fait, il y avait les députés, etc. Et alors, la vice-présidente du conseil départemental lui dit, mais vous, madame, pourquoi vous êtes venue là à votre âge ? Question bien sûr maladroite, et alors cette femme a répondu alors avec beaucoup d'intelligence de cœur précisément. Elle lui dit, madame, je suis venue là, parce que voyez-vous, c'est vrai que j'ai un grand âge, mais ce qui m'habite, c'est une formidable jeunesse intérieure, c'est une formidable espérance. Alors je suis venue là, parce que j'ai cette conviction qu'avec ces étudiants, ces jeunes actifs, eh bien, nous avons quelque chose à vivre. Au fond, cette femme savait un peu le secret de la vie, c'est de pouvoir vibrer à l'autre, n'est-ce pas, et l'attente du Seigneur, dans cette spiritualité qu'il nous offre, vivre selon l'esprit, n'est-ce pas aussi l'attente de bien nos frères qui espèrent que nous ne laisserons pas dans un oubli. Là, voici que s'éveillent pour chacun des raisons de croire, parce que nous avons trouvé des raisons d'aimer, des raisons d'espérer, et jusqu'à saisir un jour plus profondément que finalement ces raisons-là, eh bien c'est le Seigneur qui nous les offre. Merci de votre